Chapitre 9. Chloé, 12 juillet 2018. Elle n'était pas là. Elle a appelé l'agence de détectives pour repousser le rendez-vous de 4 jours. Ou plutôt, un homme qui parlait parfaitement anglais a appelé pour elle. Qui est cet homme? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Je n'y comprenais déjà pas grand-chose, mais le mystère s'épaissit à mesure que mon stress et mon agacement augmentent. 4 jours, c'est long, mais ce n'est pas suffisant pour faire l'aller-retour. Nous sommes coincés à New York en attendant. Alors oui, il y a pire. Mais franchement, je n'ai qu'une envie actuellement. Retrouver Gina et rentrer à Paris. Contrairement à moi, Olga a trouvé le rendez-vous très positif. Ce que nous a dit le détective l'a rassurée sur l'état mental de ma grand-mère. Elle a confié une mission à Luther, et d'après lui, elle semblait en pleine possession de ses moyens. Alors c'est qu'elle est capable de s'exprimer correctement, de réfléchir. Je ne comprends pas plus que toi, mais elle va bien, c'est l'essentiel. Olga a eu une sorte de coup de cœur pour ce détective, qu'elle appelle par son prénom depuis que nous sommes sortis de son bureau. Moi, je l'ai trouvé très étrange. En même temps, il faut être un peu barré pour faire ça comme boulot, non? Luther Hendricks est une caricature de beau gosse de film d'action. Crâne rasé et bouc bien taillé, sourire carnassier, il me fait penser à cet acteur noir qui jouait dans la série Esprit criminel, la maîtrise du français en plus et quelques années en moins. Le clou du spectacle, je crois que c'est cette touche de beaufitude qui confine au ridicule. Le mec porte une banane en cuir marron autour de la taille. Qui met ça de nos jours? À part un attardé des années 1990 ou une fashionista qui a cru au retour de tendance il y a 2 ans. Dans le taxi qui nous ramène depuis le Meatpacking District, Olga prend photo sur photo avec son smartphone bon marché et pousse d'horripilants et gênants petits gémissements de plaisir dès lors qu'elle découvre en vrai ce qu'elle a toujours vu dans les séries américaines. Ici, un fabuleux escalier extérieur. Là, une merveilleuse bouche à incendie jaune. Ou un attendrissant vendeur de hot-dog. Pendant ce temps, j'essaie de rassembler mes esprits. Qu'a-t-on appris? D'abord, qu'un homme, un Français apparemment, passe des coups de fil au nom de Gina. Ensuite, qu'elle a expressément demandé un détective parlant sa langue afin de pouvoir s'expliquer elle-même sans intermédiaire. Qu'elle a appelé longuement ce Luther Hendricks il y a quelques jours, d'une ligne fixe française. Et que la mission qu'elle lui a confiée semble on ne peut plus sérieuse. Le détective a refusé de nous en révéler la teneur, mais voyant notre détresse et mon état de panique, il a consenti à nous glisser que Gina souhaitait retrouver des personnes. Il y a quelque chose dans ce qu'il a dit qui m'intrigue particulièrement. Quand il a parlé de la venue de ma grand-mère à New York, il a dit qu'elle allait revenir en Amérique. Je doute qu'il se soit trompé dans les mots, étant donné qu'il parle français aussi bien que moi. Sa mère était française, à ce que j'ai compris. En sortant du rendez-vous, j'ai demandé à Olga si Gina était déjà venue à New York, et elle a marqué une pause avant de répondre par la négative. Or, Olga ne marque pas de pause. Jamais. Elle répond toujours du tac au tac. Elle coupe même souvent la parole de son interlocuteur. Peut-être suis-je parano, mais cette légère hésitation m'a troublée. Je suis persuadée qu'elle sait quelque chose sur ma grand-mère et son lien avec New York. Je ferme les yeux, tente de faire abstraction des gesticulations d'Olga et de me concentrer sur l'air de jazz qui retentit dans l'habitacle du taxi. Me reviennent alors ces 98% de la vie de ma grand-mère qui me sont inconnus. La superficialité, au fond, de nos relations. Comment peut-on se sentir aussi proche de quelqu'un sans rien connaître de sa vie? Pour un amoureux, un mari, qui accepterait de ne rien savoir de son enfance, de sa jeunesse? Pas moi, en tout cas. J'aurais trop peur de tomber sur un psychopathe. Pourtant, on accepte cette méconnaissance du passé avec une facilité déconcertante concernant ses propres grands-parents. L'adulte raconte ce qu'il souhaite à l'enfant, et si la tendresse est là, l'enfant n'a pas besoin d'en savoir plus pour être heureux. c'est quand l'enfant grandit que ça se complique. Je me souviens avoir été bouleversée à la lecture du roman de Nancy Houston, Ligne de faille. Elle exprime si bien la puissance des non-dits, la manière dont ils façonnent les caractères sur plusieurs générations, sans que l'on s'en rende compte. Est-il possible de construire son propre avenir en occultant les zones d'ombre de sa famille? Et si l'un des maillons de la chaîne atavique ressentait confusément qu'il y a quelque part quelque chose de l'ordre de la transmission qui l'empêche d'avancer? La disparition de ma grand-mère, ses mystères, toute cette histoire me remue bien plus que je ne l'imaginais. À une autre époque, dans une autre vie, me semble-t-il, le fait de me retrouver 4 jours à New York sans aucune contrainte aurait été source de joie. J'aurais acheté 3 guides touristiques, réservé une soirée au théâtre, planifié une tournée de musées, boutiques et restaurants à la mode. Mais je n'en ai pas envie. À vrai dire, je n'ai plus goût à rien. Je me répète sans cesse que bientôt, après l'échéance du 2 août, tout ira mieux. Mais j'y crois de moins en moins. Plus le temps passe, plus l'angoisse m'étreint. Mais ça n'est pas du tout le moment de penser à ça. Il faut que je me reprenne. D'autant plus qu'Olga me jette des coups d'œil d'une discrétion à toute épreuve. Si je veux éviter ses regards et ses commentaires, il est temps de faire comme si tout allait bien. Pour cela, la seule méthode qui fonctionne en ce moment, c'est d'occuper mon esprit. Je prends une grande inspiration, force un sourire et me tourne vers Olga. Je lui propose avec un enthousiasme factice d'aller visiter le MoMA. Elle pousse un petit cri strident synonyme d'acquiescement et je demande au taxi de changer de direction, ou plutôt de poursuivre sa course jusqu'à ce musée d'art moderne que je rêve de visiter et qui devrait m'anesthésier l'esprit 2 ou 3 bonnes heures. J'ai toujours aimé l'art. Enfant, quand on me posait la question traditionnelle, « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande ?» je pensais systématiquement à un métier en rapport avec le monde artistique. Peintre, écrivain, photographe, ou même gardienne de musée, pour être entourée de beauté. Mais ces réponses n'étaient pas acceptables pour mes parents, pas assez sérieuses. Alors j'enfouissais mes désirs, et je répondais que je travaillerais dans une banque, comme eux. Ma mère était ravie, mais elle ajoutait que, comme eux, ça ne serait pas suffisant. Ils avaient arrêté leurs études bien trop tôt, mais moi j'aurais toutes les chances. J'irai plus loin qu'eux. Je pourrais même la diriger, cette banque. Même mes parents ne sont plus là, et moi je suis dans l'un des plus merveilleux musées du monde. Alors je me prends au jeu de la visite, aidée, il faut l'avouer, par cette impression d'être avec une petite fille ayant un avis sur tout. Florilège de ses remarques. Les objets dégoulinants de Dali la mettent mal à l'aise, mais elle comprend qu'on puisse apprécier. Merci Olga. Trop aimable. Warhol est un putain de génie, excusez l'expression, mais réussir à faire se pâmer le monde entier devant 32 boîtes de conserve ou des photos d'une Marilyn maquillée comme une voiture volée, je dis bravo. Je la regarde s'agiter, son air ronchon greffé sur le visage, et je me rends compte qu'au fond, elle n'est pas si désagréable avec son humour pince sans rire contrebalancé l'instant d'après par un attendrissement véritable pour la nuit étoilée de Van Gogh. Nous faisons une pause dans le jardin des sculptures et je me surprends à savourer cet instant à ses côtés, à apprécier son enthousiasme juvénile pour une chèvre en bronze de Picasso, à côté de laquelle elle veut absolument poser, ou pour les couleurs de l'imposant Sandy's Butterfly de Calder. Je la regarde s'amuser comme une enfant et l'évidence me frappe. Je la côtoie depuis toujours, mais d'elle non plus, je ne sais rien. Si je connais 2% de la vie de ma grand-mère, que sais-je de celle d'Olga? Je ne dis pas que j'aimerais vraiment la connaître, mais puisque je n'ai qu'elle sous la main, autant faire un brin de conversation. Alors j'accepte de la suivre lorsqu'elle me suggère ce lieu dont elle a entendu parler dans un reportage à la télé. Un bar pivotant, situé à quelques centaines de mètres de notre hôtel. Je ne comprends pas bien le concept et me dis qu'elle débloque sûrement. Jusqu'à ce que nous arrivions. Nous sommes au 48e étage, face à une salle de bar chic et feutrée, assez classique. Sauf que les tables sont posées sur un immense plateau à vérin hydraulique, effectuant une rotation à 360 degrés toutes les heures. Une fois assis, les clients n'ont plus qu'à se laisser porter par l'imperceptible mouvement et ouvrir les yeux. C'est tout simplement grandiose. En quelques minutes, le panorama change et scintille, du Chrysler Building à l'Empire State, en passant par un coucher de soleil dément sur l'Hudson. Nous nous offrons deux Cosmopolitan hors de prix et nous les sirotons en silence, hypnotisés par l'extraordinaire spectacle. Nous suivons l'avancée de la rotation grâce au plan, dessiné sur les serviettes en papier. « So cute !» dit Olga, qui sera bientôt bilingue à ce rythme-là. Je lui fais remarquer ses progrès en anglais, elle éclate de rire et nous trinquons une nouvelle fois. Je ne sais pas si c'est le lieu, la magie du moment ou une quelconque décompensation psychologique, mais je crois que je me sens bien. Olga, je suis heureuse que vous soyez à mes côtés. Elle est surprise, émue. Elle ne s'attendait pas à un tel élan de ma part, et moi non plus à vrai dire. Elle boit une gorgée de son cocktail, baisse les yeux, puis se lance à son tour, hésitante. Chloé, on ne se voit pas très souvent, mais je t'apprécie beaucoup. Tu sais, ta grand-mère et moi, nous avons bien remarqué que ça ne va pas très fort, alors je voulais te dire que si tu as besoin de parler, je suis là. Je m'apprête à réagir, mais elle se dérobe. Dès qu'un brin de sentimentalisme affleure, elle s'enfuit d'une pirouette. Un peu comme moi, finalement. Tu m'excuseras, mais après toutes ces émotions, je dois aller me rafraîchir. C'est ce qu'on dit quand on doit changer sa culotte en tissu urinaire, non ? Elle m'envoie un clin d'œil en riant, saisit son sac à main et s'éloigne. En attendant son retour, je me perds de nouveau dans la palpitation incandescente de Manhattan. 10 minutes plus tard, Olga n'est toujours pas revenue. Je commence à m'inquiéter, parcours la salle des yeux plusieurs fois, mais ne la trouve pas. À la place, je vois entrer le détective, Luther. Je m'enfonce dans mon siège, regarde ailleurs. Je n'ai aucune envie de le croiser ici. D'ailleurs, que fait-il là ? 8 millions d'habitants dans cette ville et il faut qu'il choisisse le même bar que nous. Fuck, 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 il m'a vu. Il approche tout sourire, son atroce banane greffée autour de la taille. Bonsoir, Chloé. Désolée pour le retard. Il s'assied à la place d'Olga. Je le regarde avec des yeux ronds. Le retard ? Nous avions rendez-vous à 20h30, il est presque moins le quart. Je crois qu'il y a erreur. Nous n'avions... Un SMS m'interrompt. C'est Olga, qui m'envoie désormais des messages depuis les chiottes. Ma vie va vraiment de mieux en mieux, il n'y a pas à dire. J'ai pris la liberté de donner rendez-vous au beau Luther quand tu m'as demandé de garder ton sac au musée. 4-3-2-1, c'est idiot comme code de téléphone d'ailleurs. Amuse-toi bien, ma chérie. La garce. Ça ne va pas ? Je ne dis rien. Je suis juste furieuse. Et puis merde, rien ne m'oblige à subir ça. Je n'ai pas envoyé de message. C'est Olga qui l'a fait sans m'en informer. Je n'ai aucune envie de boire un verre avec qui que ce soit. Alors je sais que c'est très impoli, mais à moins que vous n'ayez quelque chose à m'apprendre sur ma grand-mère, je vais me lever et quitter ce bar. Ah, et au fait, personne ne porte plus de bananes depuis 1995. J'y suis peut-être allée un peu fort. L'attaque sur le look, c'est mesquin, ça ne me ressemble pas. Et puis c'est surtout Olga qui m'exaspère. Alors je me sens un peu coupable lorsque je le vois baisser les yeux. Vous ne savez rien de moi. Vous pouvez me prendre pour un pauvre type, c'est votre droit. Mais l'ami de votre grand-mère se fait du souci pour vous. Et votre grand-mère aussi, d'ailleurs. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Gina m'a demandé d'enquêter sur vous. Il s'arrête. Il bluffe, j'en suis certaine. Est-ce qu'il bluffe ? Votre grand-mère est persuadée qu'il n'y a pas que le décès de votre mère derrière votre mal-être. Ce sont ses propres mots. Je peux refuser d'enquêter sur vous, bien sûr. Mais il faudrait que vous compensiez le manque à gagner. 500 $, donc. Enfin, disons 600 $. Sinon, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Autant mener à bien la mission initiale. J'accuse le coup. Le voyage à New York, l'hôtel, le détective privé. La facture monte vite. Sinon, à part ça, l'aplomb de ce mec est hallucinant. Non mais pour qui vous vous prenez? Je vous propose un simple marché. À vous de voir. Et puis il faut me comprendre. Je dois m'acheter une nouvelle banane. Il rit, trop fier de sa blague. Je suis excédée. Certes, j'ai quelques milliers d'euros de côté, mais à ce rythme-là, je vais me retrouver sur la paille. Je m'apprête à me lever pour mettre fin à cette mascarade, mais je stoppe mon mouvement. Je n'ai vraiment pas envie qu'il enquête sur moi. Alors quitte à avoir un détective à payer, autant essayer de lui soutirer des informations. Je vous donne 500 $ si vous me lâchez une info sur ce que vous a demandé ma grand-mère. 600. 600, deux infos. Ok, je vous écoute. Posez-moi vos questions. Vous êtes pressé, monsieur le détective? Pour le prix de la consultation, j'ai bien le droit de cogiter 5 minutes. Vous n'avez qu'à nous commander des cocktails en attendant. C'est vous qui m'invitez, évidemment. Il sourit. Moi aussi, je peux avoir un peu d'aplomb si je veux. Je réfléchis quelques instants en silence, le temps que les boissons arrivent. Voici mes questions. Je veux connaître l'origine de son argent. Et je veux savoir qui elle recherche à New York. Et puis si elle est déjà venue ici, et si oui, quand? Ça fait 4 questions. 4 questions, 1 200 $. Ne me fusillez pas des yeux, je plaisante. L'origine de l'argent, c'est un important gain au jeu dont j'ignore le montant. Votre grand-mère aimerait que j'identifie le cimetière new-yorkais où sa mère et son frère sont enterrés. Elle souhaite aussi retrouver une femme dont elle ne connaît que le prénom, et qu'elle a rencontré sur le bateau qui les emmenait, elle et sa famille, vers les États-Unis en 1938. Ce qui répond également à vos 2 dernières questions. Lorsque je rentre à l'hôtel, je suis sonnée. Gina a donc émigré aux États-Unis en 1938, lorsqu'elle avait 5 ans. Et c'est ici que sa mère et son frère sont morts. Mon Dieu, je n'ai jamais entendu parler de cet épisode de sa vie. Combien de temps sont-ils restés à New York? Il me semble pourtant qu'elle a vécu la guerre en France. M'aurait-elle menti? Je ne suis plus à ça près. Olga est-elle au courant? Bien sûr qu'elle l'est. C'est pour ça qu'elle a marqué un temps d'arrêt tout à l'heure. Elle en sait bien plus que je ne le pense. Et cette histoire de gain au jeu, de quoi s'agit-il? Ce détective me dit ne pas en savoir plus. Dois-je le croire? Peut-être que ma grand-mère lui a raconté des salades. Peut-être qu'elle se fout de nous depuis le début, qu'elle ne va jamais venir aux États-Unis, et que moi, comme une cruche, je me suis précipitée ici en la croyant en danger. Mais elle est peut-être en train de mourir quelque part en France, à moitié folle, ne sachant plus qui elle est. Oui, je sais. Dès que je suis stressée, mon imagination s'emballe. J'espérais avoir une petite discussion avec Olga, mais en ouvrant la porte de la chambre, je remarque qu'elle est endormie sur son lit, yeux fermés et casque audio sur les oreilles. Je chuchote quelques mots, elle ne répond pas. Il sera bien temps de l'interroger demain. Il est tard, la journée a été longue et éprouvante. J'ai envie d'un bain chaud. Il fait une chaleur de bête dehors, mais dans cette chambre trop climatisée, il doit faire 18 degrés. Et puis j'ai besoin de m'étourdir dans un nuage de vapeur, lumière tamisée. Au bout de quelques minutes, je m'endors. Une aubaine pour l'insomniaque que je suis en ce moment. Alors je décide d'abréger. Je sors de la baignoire dans un demi-sommeil, m'apprêtant à saisir la serviette à côté de la porte. Je sursaute, pousse un cri, cache mes seins dans un mouvement réflexe. Olga se tient devant moi, casque toujours vissé sur les oreilles, mais les yeux grands ouverts. Je me retourne illico. Olga s'excuse en refermant la porte, marmonne qu'elle ne m'a pas entendu rentrer, qu'on n'a pas idée de mettre si peu d'éclairage. Comment pouvait-elle savoir que j'étais là? Je me mets à trembler. J'ai besoin de m'asseoir. Alors je me laisse glisser le long du mur carrelé, replie mes jambes contre mon abdomen, les entoure de mes bras. Olga n'a rien dit d'autre, non. Mais je suis certaine qu'elle a vu ma cicatrice.